Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Elles ont osé », proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe, nous, telles que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux. Femme des territoires, pour créer son entreprise. Bouge ta boîte, le réseau business pour les dirigeantes. Et bouge ton groupe, pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois deux exploratrices hors du commun. L'une attirée par le ciel et l'autre par la terre. Leur point commun, une ténacité extraordinaire et le sens du bien commun. Bonjour Claudie Aigneret.
Bonjour.
Vous êtes médecin, scientifique, astronaute, ancienne ministre. Vous êtes celle qui nous a tant fait rêver en étant la première européenne et la seule française à être allée dans l'espace, seule femme à la tête du vaisseau Soyouz. Docteur en médecine, certifiée en biologie et médecine du sport, en médecine aéronautique et spatiale, en traumatologie sportive, en rhumatologie, en neurosciences. Vous êtes tellement bardée de diplômes que vos collègues vous ont surnommé Bac plus 19. Vous avez été également ministre délégué de la recherche et de la technologie, puis ministre délégué des affaires européennes. Vous avez ensuite dirigé Universcience, la Cité des sciences et le Palais de la découverte. Et vous êtes aujourd'hui engagé au sein de plusieurs fondations pour transmettre votre amour de la coopération internationale des sciences et de l'espace. Bonjour Carole Tawema.
Bonjour.
Alors vous êtes à la tête de Carétique, une marque de cosmétiques bio à base de karité qui va du baume pour le corps aux soins du visage en passant par le masque pour les cheveux. Carétique est leader du karité naturel et c'est aussi une marque éthique pour laquelle 700 femmes au Bénin travaillent via des coopératives. Carétique, c'est aujourd'hui 1500 points de vente dans 10 pays, dans la Finlande, la Suisse ou encore Taïwan. C'est aussi une entreprise rentable qui réalise 600 000 euros de chiffre d'affaires. Vous êtes également administratrice de plusieurs organismes comme le mouvement Impact France ou Cosme Bio. Ensemble, Claudie Aigneret, Carole Tawema, j'espère qu'on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, d'accepter la grande aventure d'être vous-même, comme le disait si bien Simone de Beauvoir. Claudie, Carole, je vous propose de partager avec nous chacune un moment clé, celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours, puis nous échangerons en regard croisé sur vos défis respectifs. Claudie Aigneret, on commence avec vous. Vous avez grandi à Creusot, en Saône-et-Loire, dans une famille de sportifs. Vous étiez une excellente élève et vous pratiquiez en parallèle la gymnastique en compétition. Vous êtes alors bercée par les livres d'aventure, Moby Dick, Robinson Crusoe, Jules Verne et légendes mythologiques. Et le 21 juillet 1969, votre vie change pour toujours.
Oui, merci Marie. C'est vrai que ça reste très, très fort en moi, ce moment du 21 juillet 69. Alors pour ceux qui étaient nés à cette époque, c'est de la génération Apollo. C'est Apollo 11, le premier pas de l'homme sur la Lune. Un moment absolument magique, fascinant. En fait, où petite fille, mes grands-parents, grands-parents, on était tous complètement fascinés ensemble de vivre ce moment tout à fait exceptionnel. Donc ça a germé dans ma tête, cette idée que quelque chose qui était du domaine du rêve, inaccessible, pouvait devenir possible. Ce soir-là, c'était possible.
Vous vous rappelez de ce moment précis ?
Ah, je me rappelle, j'étais en vacances, en camping, à la télévision. Il y en avait très peu à l'époque, c'était à l'extérieur, dans l'enceinte du camping, et on était tous réunis. Pour partager ce moment, c'était la nuit, on n'était pas grands, mais on était tous là à vivre de façon très très intense ce moment. Alors c'est pas ce jour-là que j'ai décidé de devenir astronaute, c'était plutôt la clé d'un rêve qui devenait possible. Et puis après, ça a continué à mûrir quand même dans ma tête. Déjà un petit peu nourri par les romans d'aventure et de science-fiction, ça a continué à germer. Et un jour, l'opportunité s'est présentée, j'ai saisi ma chance.
Alors ça, on va raconter tout à l'heure. Un peu de suspense quand même. Vous décidez alors, après l'âge de 12 ans, de devenir exploratrice, sportive. Vous passez un bac C scientifique à 15 ans. Et comme vous êtes jugée trop jeune pour réaliser des études dans le domaine sportif, vous vous dirigez vers la médecine, d'où vous sortez major dès la première année.
Et oui, la médecine, la physiologie, l'anatomie, ça me paraissait quelque chose d'important quand on veut se consacrer à la compréhension et à l'utilisation de son corps dans la performance. Donc j'ai patienté en faisant médecine. Et oui, je travaillais beaucoup, donc je suis sortie major de la première année de médecine. Et là, je me suis posé la question de... Bon, ça t'a intéressé quand même beaucoup pendant toute cette année d'études. Donc j'ai continué et je suis devenue rhumatologue, là encore préoccupée par le corps souffrant et traumatosportif, parce que préoccupée par la performance du corps.
Donc vous enchaînez ainsi les diplômes pour acquérir le maximum d'expertise avec toujours ce rêve d'espace en tête. Carole, à vous, vous avez grandi au Bénin jusqu'à l'âge de 10 ans, vous arrivez en France, vous réalisez un parcours brillant, prépa HEC, master en entrepreneuriat à la Kedge Business School, puis master 2 en marketing international, en Erasmus, en Finlande. Vous réalisez votre mémoire sur les stratégies de développement du commerce international du karité, c'est à retenir parce que c'est clé pour la suite. Et vous travaillez ensuite comme consultante en maîtrise d'ouvrage pour plusieurs sociétés de services en informatique, comme par exemple Microsoft ou IBM. Et votre moment clé, nous sommes en 2008, vous avez 25 ans, vous gagnez bien votre vie, vous êtes bien au chaud. Et lors d'un déjeuner avec votre maman et votre sœur, tout bascule.
Effectivement, parce que j'avais réalisé mon mémoire de fin d'études effectivement sur le karité. Et le karité, c'est une affaire de femmes. C'est quasiment exclusivement des femmes qui approchent l'arbre de karité, qui transforment les amandes de karité. Donc le karité, si vous ne savez pas, c'est un arbre centenaire en Afrique qui nourrit, soigne, au même titre que le baobab, mais réservé aux femmes. Donc ma mère nous ramenait régulièrement du karité en France. Elle, c'est une femme qui adore les produits de luxe, mais elle rajoutait toujours du beurre de karité dans ses crèmes de luxe, ce qui a toujours suscité notre intérêt. Et en fait, j'avais identifié des solutions dans ce mémoire de fin d'études. Les conclusions, je les ai rangées dans un tiroir. Et en déjeunant avec elle, avec ma mère et ma sœur, j'ai mis l'idée de créer une entreprise autour du karité. Bon, alors, au début, c'était pas formalisée en tant que telle, mais c'était pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas en tant que femme de faire quelque chose dans le karité ? On l'utilise, on connaît son efficacité, mais ce karité qu'on utilise n'est pas le karité qu'on trouve dans le commerce. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que femmes qui sommes aujourd'hui en France ? Moi, j'ai fait des études, ma sœur aussi. Qu'est-ce qu'on peut apporter pour apporter une alternative ou changer la donne ?
Parce que le karité, dans le commerce, il est raffiné, c'est ça. Et vous, c'est du karité naturel, ce qui était important pour vous.
Alors...
Et donc, votre maman vous dit, c'est une super idée.
Oui, étonnant. Enfin, c'est pas une surprise. Ma mère est une femme qui entreprend. En fait, les femmes africaines entreprennent beaucoup, contrairement à ce qu'on peut penser.
Premier continent de l'entrepreneuriat féminin, l'Afrique.
Oui, à tous les niveaux, soit dans l'économie informelle, je pense que c'est principalement dans l'économie informelle, mais il se trouve qu'elle entreprenait déjà dans l'économie formelle. Elle nous a toujours appris à être indépendante, ne jamais dépendre d'un homme, construire notre destinée. Et donc, je pense que ça vient de là, en fait, cette envie de créer un projet. Voilà. Et en fait, les mots qu'elle a utilisés, c'est « vas-y », parce que c'est un projet qui fait sens, enfin, qui va au-delà de « c'est pas uniquement créer une entreprise ». Elle avait déjà perçu l'impact que ça pouvait avoir, puisque étant originaire aussi de zones rurales comme mon père, elle savait à quel point le rôle des femmes est important, à quel point l'éducation des filles est importante. Et en fait, on avait déjà commencé à initier l'impact, à construire l'impact de Caritique à terme. L'idée était de se baser sur le pouvoir économique des femmes pour scolariser les filles. Ce qui n'est pas, ne fait pas forcément sens. On ne trouve pas nécessairement cette idée quand on n'a pas vécu sur le terrain et qu'on n'a pas vécu cette difficulté en tant que femme et en tant que fille à aller à l'école. Donc en fait, Caritique devrait résoudre cette problématique et en passant par le pouvoir économique. Et c'est ce qu'on a fait.
Donc vous êtes allé voir votre employeur de l'époque.
C'est ça.
Et vous avez sauté dans le vide.
Alors,
qu'est-ce que vous lui avez dit ?
J'ai demandé une rupture conventionnelle. Au départ, je l'ai démissionné et je découvrais la rupture conventionnelle. Parce que je vous avoue que ce ne sont pas des choses sur lesquelles je me penche d'habitude. Je n'ai jamais cherché à quitter une entreprise. Mais là, c'était une opportunité en sachant que mon employeur connaissait déjà le projet. Il tenait à ce projet, il m'encourageait en fait à avancer dans un cadre associatif avant qu'il ne devienne une entreprise. Et quand j'ai annoncé que je partais, en fait, il comprenait pourquoi est-ce que c'était important pour moi. Et effectivement, à ce moment-là, je ne me voyais pas faire autrement ou autre chose. C'était comme si c'était écrit, en fait. Et ça faisait le lien avec mes origines, avec beaucoup de femmes, en fait, en France, d'origine africaine, ont ce besoin. Pas de revenir aux sources, mais de contribuer au développement du continent africain d'une façon ou d'une autre.
J'aime bien le « comme si c'était écrit », parce que ça fait sens avec votre histoire aussi, Claudie Aigneret.
Oui, mais c'est un peu un saut dans l'inconnu, dans quelque chose qui est à construire, mais c'est intéressant.
Oui.
Claudia Nuret, Carole Tavoué et moi, je vous propose d'échanger sur vos parcours en regard croisé, les opportunités que vous avez saisies, vos prises de risque maximales, ce qui a construit vos moments de succès, vos difficultés, et nous clôturerons ce podcast par un portrait chinois. Claudia Nuret, quelle a été pour vous l'opportunité que vous avez saisie, que vous avez d'abord vue et que vous avez saisie et qui a déclenché la suite qu'on connaît?
Oui, alors j'étais rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris et dans le couloir de la consultation sur le tableau d'information, j'ai découvert cet appel à candidature du CNES, l'Agence française de l'espace, qui recherchait des astronautes pour mener à bien les programmes scientifiques à bord des stations spatiales. Donc vous l'imaginez après ce que je vous ai raconté, voilà, l'étoile qui scintillait dans ma tête s'est mise à scintiller très fort et pour moi c'était une évidence. Il fallait que je candidate, j'ai demandé un dossier, je l'ai rempli et je suis passée dans la moulinette de la sélection qui a duré plusieurs mois. On était 1000 candidats à l'époque, c'était en 1985 et parmi ces 1000 candidats il y avait 100 femmes. Donc 10% de femmes que l'aventure tentait. Et nous avons été 7 candidats retenus. J'ai fait partie de cette équipe, candidate astronaute en 85, pour avoir la chance de partir m'entraîner à la Cité des Étoiles et de faire 2 missions spatiales.
Vous aviez 25 ans, vous n'avez pas hésité une seconde.
Alors, une opportunité comme celle-ci, elle résonnait très fort avec ce qui me mobilisait, ce qui remplissait mon esprit. Par ailleurs, j'étais disponible. Je venais de terminer ma spécialisation de rhumatologie. J'étais en train de me poser la question sur comment j'allais exercer mon métier. Donc, il y a à la fois voir l'opportunité, parce qu'il y a plein d'opportunités qui passent et on ne les voit pas toujours. Ensuite, la saisir, mais la saisir si on est disponible, effectivement. Et puis, si vous rencontrez pas de blocage intérieur ou extérieur. Et moi, tous mes collègues, peut-être parce que j'en parlais auparavant de cette aventure-là, m'ont dit « Oui, tu as raison, vas-y. »
C'est pour toi.
Donc, c'est pour toi. Donc, j'ai pas eu de « ça n'est pas pour toi, mais qu'est-ce que tu imagines ?» Et donc, cette conjonction de choses a fait que... Je ne vais pas dire que c'était facile, mais c'était possible.
Oui, parce que la sélection était extrêmement rude. Vous êtes passé rapidement dessus, mais il fallait avoir 0 défaut physique.
La sélection, oui, il faut effectivement avoir une très très bonne condition physique, des examens médicaux parfaits, une psychologie individuelle de résistance, résilience, d'adaptation, bien évidemment, puis des conditions psychologiques qui font que vous allez être capable de vous intégrer dans un équipage, parce qu'on ne part pas tout seul, on travaille ensemble et qu'il y a une mission complexe à réussir. Donc, une capacité à apprendre encore des choses. Je suis médecin, je suis chercheur, mais j'ai appris à devenir ingénieur, pilote d'évacuation d'urgence de la station sur le vaisseau Soyouz. Donc j'ai appris plein de choses. Il faut avoir cette envie, cette curiosité de continuer à s'enrichir, d'écouter les autres et d'apprendre avec les autres, puis de s'expatrier à l'étranger. J'ai passé 10 ans de ma vie en Russie, donc tout ça, c'est pas complètement facile. Mais l'objectif était tellement magnifique. On est 580 dans le monde à avoir eu la chance de voler. Alors, tenter cette aventure-là, il fallait la tenter.
Il fallait la tenter et vous partez ensuite 10 ans en Russie à la Cité des Étoiles.
C'est ça.
Subir cet entraînement.
Voilà, j'ai fait 2 missions spatiales et à chaque fois avec le système russe, la fusée Soyouz russe et puis le vaisseau Soyouz russe, là aussi. J'ai rejoint en 96 la station Mir, l'ancienne station soviétique qui a ensuite été désorbitée. Et puis j'ai eu la chance de voler aussi sur la Station Spatiale Internationale, à son tout début de construction, celle qui est aujourd'hui magnifique dans l'espace. C'était le tout début, 2001. Et voilà, j'ai eu la chance de faire de magnifiques programmes scientifiques, de vivre en opérationnel, en coopération internationale, avec des Russes, des Américains, des Européens de toutes nationalités. Après le CNES, l'Agence française, j'ai rejoint l'Agence Spatiale Européenne, donc 22 États membres qui se réunissent pour continuer à faire vivre l'exploration habitée. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'on est en train de tenter de revenir sur la Lune. Donc, génération Apollo, la génération d'aujourd'hui est aussi une génération qui ira sur la Lune. C'est Artemis, cette fois-ci. C'est la déesse sœur jumelle d'Apollo. Et c'est une femme.
C'est important pour vous, la mythologie, on le sait. Merci pour ce beau symbole, Claudie. Carole, vous, après, vous êtes autofinancée pour Caritic, parce que clairement, aucune banque voulait vous prêter des fonds pour ce projet. Vous rencontrez un groupe dans le bio qui rachète en partie votre marque en devenant majoritaire. Mais vous, finalement, vous n'avez pas vraiment de contrat, pas vraiment de fonction officielle. Et pourtant, vous travaillez à temps plein pour eux. et vous ouvrez les yeux au bout de 3 ans.
C'est mon opportunité. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas préparé en fait à ce genre de situation. Moi, j'ai toujours... c'était une opportunité à saisir, effectivement. Monter un projet en famille, se retrouver en situation de le céder à un groupe... je pense qu'aujourd'hui tout le monde hurlerait en disant ne fais surtout pas ça, mais pour moi c'était la seule solution en tant que femme africaine jeune à l'époque, pour que le projet se développe. Encore une fois, mon intention n'était pas de créer mon entreprise, mon intention était de faire connaître le véritable beurre de karité naturel au sens de la réglementation européenne, mais à l'époque ce n'était pas au sens de la réglementation européenne. On a développé un produit qui a finalement été reconnu comme étant le vrai karité naturel.
Avec 17% d'actifs contre 2,5% pour le raffiner.
Une fois qu'il est raffiné, oui. Donc pour moi, c'était, à l'époque, c'était un ange gardien en fait, qui se posait sur mon épaule. Donc j'ai accepté effectivement de céder les parts, de rejoindre un groupe en Ardèche. C'est assez, c'est pas traumatisant. J'ai aimé la région, j'ai aimé le département, mais j'étais la seule femme noire dans le coin. Effectivement, il a fallu, j'étais un peu dans l'ombre, parce que pour beaucoup de personnes, personne dans le groupe ne comprenait réellement ce que je faisais là. Est-ce qu'une femme noire est réellement compétente, puisque je m'occupais de 2 projets, à la fois de Caritique et du site internet pour le groupe. Est-ce qu'une femme noire peut effectivement s'occuper d'un projet de développement d'un site internet? Donc j'avais plein de questions.
C'était il y a 12 ans.
Oui, quel type d'études? Est-ce que tu as vraiment fait des études? Donc tu sais développer un site internet. Donc en fait, toute la partie, le développement de la gamme Caritique, on pensait que c'était le département marketing du groupe qui s'en occupait. En fait, c'était moi. Et la partie développement du site internet, c'était mon métier, donc c'était une continuité. Mais j'ai compris qu'en fait, j'arrivais dans un terrain... inconnu, miné, mais ça ne me dérangeait pas parce que je quittais le Bénin, j'arrivais en France, j'ai fait mes études à Marseille. Je me suis souvent déplacée et je me retrouvais constamment en terrain inconnu. Il fallait que je m'adapte. Même en Finlande, je me suis amusée à aller jusqu'à Rovaniemi, rencontrer le Père Noël parce que je voulais aller sur un terrain inconnu et marquer dire quelqu'un du Bénin est passé par là. Donc au bout de 3 ans, j'ai vécu effectivement un événement assez douloureux, dans le sens où je m'apprêtais à quitter le groupe qui allait céder à un groupe encore plus important, et on m'a invité à faire mes valises et partir. Mais avant de partir, il y a un séminaire qui s'est tenu, et là j'ai vraiment vu dans l'organigramme du groupe que j'étais absente.
Tout le monde sauf vous.
Voilà, j'étais dans la salle, mais j'étais absente dans l'organigramme. Cette nuit-là, j'ai pris la voiture, je rentrais et j'aurais pu... y a des falaises à droite, à gauche. Et j'ai pensé à ce moment-là...
C'était la fin.
Voilà, que c'était la fin. Et ce qui m'a retenue, encore une fois, c'est, c'est ma mère. C'est cette phrase de ma mère qui nous a constamment dit « Vous allez vivre des choses difficiles, mais n'oubliez jamais que personne, à part celle qui vous a mise au monde, n'a le pouvoir de vous prendre la vie. » Et ça m'a permis de continuer. Je me suis dit, ça va être difficile, mais ils m'ont pas mise au monde, donc ils ne peuvent pas me reprendre la vie. Et la vie elle s'est construite ensuite, elle est revenue. Il y a eu ensuite de nouvelles perspectives par la suite.
Et comment vous avez repris cette légitimité, justement? Vous avez décidé quoi?
Donc, je quittais le groupe, donc je faisais mon dernier salon. Et j'étais assise, je me tenais les joues sur le stand du groupe. Et là, un autre ange gardien est venu. Il s'est demandé pour quelle raison j'étais aussi défaite. Donc, je lui ai expliqué mes aventures. Il m'a dit, mais en fait, peut-être que tu es absente parce que personne ne t'a vue. Peut-être qu'à présent, il faut que le monde te voie. Il faut que les magasins à qui ce groupe distribuait tes produits te voient. Donc, prends ta voiture et va les voir. C'était compliqué pour moi parce que je déteste conduire jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai dû prendre sur moi et j'ai pris ma voiture et j'ai fait effectivement le tour de France. J'ai découvert la France à ce moment-là. J'ai découvert à quel point ce pays est magnifique, à quel point les Français, il n'y a pas des Français en fait. Enfin, les Français tels qu'on les catégorise, il y a plusieurs Français en fonction des régions. J'étais seule et à chaque fois, j'allais voir les magasins.
Et 200 points de vente.
200 points de vente en 3 mois. Et dans ces 200 points de vente, il y avait 20 magasins Biocoop.
Qui sont tombés amoureux de vous.
Qui sont...
De vos produits.
Voilà. Alors c'est drôle de voir d'un seul coup quelqu'un décrire vos produits de façon très positive et vous encourager. Enfin, c'était une expérience extrêmement... j'encourage en tout cas tous les entrepreneurs qui m'écoutent à faire ça. C'est extrêmement important, aller sur le terrain, écouter les clients. Et le miracle s'est produit. Donc ces 20 magasins ont contacté la centrale Biocoop pour parler de cette jeune fille qui est venue les voir. Et Biocoop nous a référencés en national.
Je suis vraiment très impressionnée par ce que raconte Carole. Quelle belle trajectoire, quelle audace et quelle persévérance. C'est super. Je retiens deux choses. Une chose qui est à cœur pour moi dans tout ce que j'ai vécu, c'est la diversité. Moi, j'ai aussi cette possibilité d'être avec des gens d'horizons différents, de cultures différentes, d'âges différents. Donc la diversité, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel pour peu qu'elle soit inclusive. Et donc cette notion que vous avez abordée, où vous vous sentiez plutôt exclu que inclus, c'est un point important à retenir. Et puis le deuxième, c'est cette ouverture et capacité d'écoute aux autres. Parce que le chemin, il est difficile pour tout le monde. Et c'est vrai qu'on ne va pas y arriver tout seul. Et que quand vous rencontrez ce que vous appelez des anges gardiens, ou des gens qui vous font confiance, ou qui vous écoutent, ou qui ont des propositions, le fait de les écouter, et puis se dire, ben, pourquoi pas. C'est pas une mauvaise idée, c'est pas moi qui l'ai eue, mais quelqu'un me la propose. Donc cette ouverture, ça me paraît important dans le chemin qu'on fait.
D'autant que cette année-là, les 200 points de vente, je vous remercie pour ce point. Effectivement, je ne l'avais pas perçu comme ça. Mais cette année-là, j'ai une de mes amies, qui est de 30 ans, en fait, était décédée d'un accident de voiture. Donc j'avais la double... à chaque fois, en fait, j'avais ces difficultés de me dire il faut que je prenne la route et que je me retrouve dans cette situation compliquée. Mais en même temps, j'ai un ange gardien. Enfin, j'ai constamment l'impression d'avoir des anges gardiens. Donc je conduisais en regardant le ciel. Donc si jamais vous me croisez en voiture, fuyez, parce que je conduis en regardant le ciel.
Il y a des belles choses à voir dans le ciel.
Oui, c'est ça.
Justement, en parlant de belles choses dans le ciel, Claudie, est-ce que vous pouvez partager avec nous un moment parfait ? Peut-être le moment où vous avez pris votre premier vol, où vous êtes allée dans l'espace pour la première fois ?
Oui, alors je l'ai dit, je suis très privilégiée d'avoir eu ces missions spatiales et c'est difficile d'extraire un seul moment. Je dirais que se retrouver dans cette station spatiale avec en microgravité, c'est-à-dire que on ne ressent plus le poids de son corps. On a une masse encore, de l'inertie, mais voilà, on flotte. Le corps est libre, libéré de son poids. Et voilà, vous vous déplacez, impulsion de part et d'autre, des murs de la station, et vous allez planter votre nez au hublot de la station. Alors le hublot côté ciel et cosmos, c'est très beau aussi, mais le hublot côté Terre, côté de cette planète qui est vraiment... Oui, merveilleusement belle, pleine de poésie, de couleurs. Elle est blanche et bleue avec les océans et les nuages. On voit bien sa rotondité. On voit qu'elle est isolée dans ce cosmos noir et infini, protégée par une très, très mince pellicule d'atmosphère. C'est le seul endroit où on voit la vie, où on voit défiler. On est à 400 km en orbite. On fait un tour de Terre en 90 minutes. Donc, on fait 16 fois par jour le tour de la Terre. 16 levées de soleil, 16 couchers de soleil, 16 levées de lune chaque journée, avec un corps dont vous êtes complètement libéré. Donc ce sentiment d'être un regard plongé dans une autre dimension. Et alors, un moment magique pour accompagner ça et développer encore cet aspect de contemplation et de transcendance qu'on peut avoir dans cette perspective orbitale, c'est d'avoir sur les oreilles la musique de La Callas dans Casta Diva, Norma. J'en ai encore, maintenant quand je vous le dis, des frissons.
Et tout ça dans un environnement un peu spartiate à l'époque. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué.
Oh ben c'est de toute façon un environnement hostile, hein. C'est un environnement confiné. Bon, c'est vrai que la station est beaucoup plus grande aujourd'hui. Il y a plein de laboratoires. Mais bon, vous êtes à distance, vous n'ouvrez pas la fenêtre, vous n'ouvrez pas la porte. Vous vivez pendant quelques semaines ou quelques mois avec un équipage que vous connaissez bien, parce qu'on s'est longuement entraîné ensemble pour une mission tout à fait exceptionnelle. Mais il y a plus de plaisir que de contraintes.
Et le moment où vous êtes parti de la Terre, vous l'avez vécu comment ?
Alors, deux phases. La partie extraction verticale. On part du cosmodrome de Baïkonour sur la fusée Soyouz, érigée sur son pas de tir. Et puis, pendant les premières minutes de propulsion, là où vous allez ressentir des facteurs de charge, parce que l'énergie nécessaire pour décoller de la Terre et atteindre les 28 000 km/h qui est votre vitesse de satellisation, ça pousse, bien évidemment. Et si vous pouvez regarder par le hublot à ce moment-là, c'est la seule et unique fois où vous vous verrez partir en verticale de la Terre. Après, vous allez rejoindre une orbite et vous allez être de nouveau en vol autour. Mais cette extraction verticale, c'était un moment assez passionnant. Et puis le deuxième moment, toujours pendant le vol, que j'ai trouvé pour la mise en orbite assez soft. Enfin, il y avait une succession d'accélérations, mais on est entraîné en centrifugeuse, on est sélectionné, donc on a l'habitude, ça va à peu près. J'ai trouvé l'atterrissage plus sportif que la mise en orbite. Et le deuxième moment, c'est quand, une fois vérifié que tout est bien étanche, que la mise en orbite est bonne, avant que notre vaisseau n'ait rejoint la station spatiale, le premier regard libéré par le hublot, et là, j'ai vu une aurore. J'en avais jamais vu sur Terre. Et alors, ce défilé de vert, de turquoise, dans le noir du ciel au-dessus de cette planète, c'est un moment magique, je l'ai toujours en tête.
Et vous, Carole, un moment parfait, un moment où vous avez compris que Caritic commençait à fonctionner?
Je pense que c'était la remise du prix fournisseur. Alors, ça, c'était le premier temps, c'était la remise du prix fournisseur Biocoop. Il me semble que c'était en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Mais avant que nos produits ne soient disponibles chez Biocoop, il a fallu lever des fonds. Et là, encore une fois, j'ai fait face à ce à quoi, je pense, beaucoup d'entrepreneurs font face, quelle que soit leur couleur de peau, lever des fonds auprès des banques. Mais là, c'est encore une fois saisi l'opportunité. Le mouvement Impact France, c'était naissant, hein, les mouvements à impact social et écologique faisaient une tournée des financeurs. Donc là, encore une fois, je n'ai pas attendu l'étape de Lyon. J'ai pris un billet, je suis partie à Paris, un billet de train, et j'ai rencontré notre premier investisseur qui cherchait une entreprise à impact dans laquelle investir. Donc je pense que oui, je suis la première femme noire à avoir levé des fonds à impact en France, sans le savoir à l'époque. Et c'est cette levée de fonds que je n'aurais pas trouvé d'autres sources de financement, puisque je n'ai pas de parents fortunés en France, quand bien même je suis fille d'un ministre. mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je n'ai pas de capital en fait en France, donc j'aurais rien pu mettre en caution ni quoi que ce soit.
Fille d'un ministre?
Oui, ministre. Mon père était ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur, pardon, je n'ai pas précisé, au Bénin, et fils de paysan qui est devenu ministre. Donc chez nous, en fait, je vais peut-être partir rapidement sur autre chose, mais pas transgresser, passer d'une couche sociale à une autre et revenir, etc., faire des allers-retours, c'est assez naturel chez nous. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, enfin que je maintiens systématiquement, c'est-à-dire que quand on a atteint un niveau, ce n'est jamais définitif. On peut toujours revenir, c'est pour ça que c'est important de garder une forme de simplicité et d'apprécier les choses simples de la vie. Donc ça, c'était le premier moment, on lève des fonds, on rentre chez Biocoop. Et l'autre moment qui a été le waouh, enfin le moment magique, c'est quand je rencontre Victoire de Taillac et Ramdan Touami de la marque Bulim 803, qui est l'une des marques de luxe les plus en vue dans le monde aujourd'hui. Je les vois à la télé, dans une émission sur Canal+, et je décide de contacter Ramdan Touami en lui disant « Nous produisons du beurre de karité grand cru ». Effectivement, on était la première à valoriser le karité en ces termes. Et j'aimerais bien vous rencontrer pour vous le proposer. Donc, Bulim 803, c'est une marque de luxe qui propose des ingrédients rares à ses clients. Et ils ont un fort développement actuellement. Et Ramdan me répond dans la foulée et il me donne rendez-vous à Paris dans le Marais. Donc, j'y vais. Et je rencontre sa femme et il référence notre beurre de karité qui est aujourd'hui distribué dans le monde entier dans les magasins de luxe de Bulim 803.
Comme quoi, il faut envoyer des messages LinkedIn.
C'est ça.
Ah, mais deux choses intéressantes là aussi. On a parlé tout à l'heure des opportunités qu'il faut voir, qui nous sont offertes. Mais il y a aussi les opportunités qu'on se crée. Et là, vous en avez créé une. Et moi, j'ai eu la chance aussi dans la suite de ma carrière, non seulement de répondre à des opportunités, des sollicitations, mais à un moment où peut-être je commençais à m'ennuyer un petit peu dans ce que je faisais, de créer moi-même l'opportunité. C'était la présidence d'Univers-Sciences, Palais de la Découverte, Cité des Sciences et de l'Industrie, où c'est moi qui suis allée chercher ce poste-là et qui ai dit « moi je peux faire ». Et ça a marché.
Et c'est pas évident hein, de dire « moi je peux faire », si ?
Non, mais j'avais peut-être, c'est vrai, une forme d'aura acquise par l'émission spatiale qui m'avait donné voilà, un petit peu plus de confiance dans cette possibilité d'oser, de tenter. Et je l'ai fait.
Et Claudie, la réussite, c'est aussi au niveau personnel ? C'est avec la naissance de votre fille Carla, entre les deux vols.
Effectivement, avant le premier vol spatial, je voulais mettre de mon côté toutes les chances pour réussir ce vol auquel j'aspirais depuis si longtemps, depuis mes 12 ans. Et donc, pas prendre de risques que je ne pouvais pas complètement gérer. Après, l'analyse des risques, la maîtrise des risques, on l'apprend pendant l'entraînement. Mais là, bon, c'est vrai, une grossesse, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Donc voilà, j'avais mis ça un petit peu de côté. J'ai volé en 96. Une fois que ce vol a été fait, je me suis dit, Voilà, c'est le moment. J'avais le papa, Jean-Pierre Aigneret, qui est astronaute lui aussi, donc c'était plus facile pour vivre ensemble une passion commune. Et ben oui, Carla est arrivée en 98. J'avais pas à l'époque fait de plan sur la comète pour une deuxième mission, mais la grossesse s'est bien passée, la petite fille était magnifique, tout s'est bien passé. J'ai été aidée, bien évidemment, à la Cité des Étoiles à Moscou pour prendre en charge tout ça. Et ben voilà, j'ai été sélectionnée pour une deuxième mission en 2001. Carla a assisté à la mission, elle avait 3 ans, enfin, depuis le centre de contrôle. Mais on a même eu la chance de pouvoir échanger en orbite avec elle au sol.
Et vous étiez partie 10 jours à ce moment-là.
C'était une mission courte, ouais.
Et c'était en 2001.
C'est ça.
Et vous, quel a été, Claudie, le moment où vous avez le sentiment de prendre un risque maximal ?
Alors, peut-être pas sur cette partie de carrière qui est à la fois de médecin, parce que je me sentais prête à le faire, à la carrière d'astronaute, parce que, ben voilà, j'avais passé des étapes, j'avais assez confiance dans ce que j'avais appris, l'entraînement était long, on se sentait prêt, on avait analysé les risques, mais on savait les maîtriser, il y avait tout un système pour doubler les systèmes qui auraient pu ne pas fonctionner. Je suis partie sur une fusée qui avait été tirée 1600 fois avant que je ne monte sur la fusée Soyouz, donc ça donne une certaine confiance dans le véhicule qu'on va utiliser. Donc c'est pas là où j'ai l'impression d'avoir pris le plus de risques. Alors peut-être c'est pas une anecdote, mais c'est vrai qu'au retour de la mission, très vite on m'a contacté pour rejoindre l'équipe gouvernementale sous la présidence de Jacques Chirac, et le Premier ministre était Jean-Pierre Raffarin. Et on m'a proposé donc d'entrer dans le gouvernement et de prendre des responsabilités de ministre.
C'était, alors c'était en 2002, c'est ça ?
En 2002, voilà. Quelques mois, j'ai atterri fin 2001 et en 2002, cette proposition est arrivée. Et ouais, c'est une forme de risque quand même, c'est pas mon métier d'être en politique. Je suis un chercheur, je suis un ingénieur, une opérationnelle. Mais voilà, je me disais... Ça correspond à des convictions qui sont les miennes. Je suis justement chercheur, médecin. Pouvoir accompagner une transformation, un engagement vis-à-vis de la science, de la technologie. On me fait confiance. J'ai de l'expérience. Je connais la communauté scientifique. J'en suis issu. Donc, j'ai pris le risque de m'engager dans des responsabilités politiques par conviction et engagement vis-à-vis de ce sujet. Vous avez évoqué le fait que j'ai été aussi ministre des Affaires européennes. Et c'est vrai que j'avais volé avec l'Agence spatiale européenne, avec le drapeau européen, que j'avais volé avec des astronautes européens de toute nationalité. Donc, l'Europe était pour moi quelque chose que j'ai pratiqué. Donc, recherche ou Europe, par conviction, par engagement, j'ai dit oui. Mais c'était... risqué, mais j'ai appris beaucoup.
C'était un coup de fil de Jean-Pierre Raffarin qui vous a proposé, hein ?
Oui.
Et qui vous a dit quoi ?
Alors Jean-Pierre Raffarin m'a appelé pour me proposer le poste de ministre de la parité. Et comme je l'ai dit précédemment, voilà, homme, femme, moi je pense que si on a les compétences, si on a l'envie, si la porte est ouverte, bah, il faut pousser la porte et puis rentrer et avancer. Ce que j'ai fait dans tous mes choix. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée de gens qui m'ont fait confiance ou d'avoir du support pour avancer dans ce que je voulais dérouler, mettre en œuvre. Donc je ne me suis pas vraiment heurtée à cette difficulté de genre que je reconnais beaucoup rencontre et qui n'est pas encore résolue. Et je suis d'ailleurs très, très mobilisée au sein de Fondation et auprès des enfants et des élèves pour inspirer, disons, et motiver sur ce type de carrière scientifique et technique pour les jeunes femmes. Mais je ne me sentais pas, voilà, porteuse d'une légitimité à me faire la représentante de la mobilisation pour la parité. Alors, c'est vrai que j'ai dit « Ah, je ne me sens pas complètement à l'aise dans ce type de portefeuille, mais je vous remercie de la confiance que vous me faites. » Et là, ben, c'est vrai que le Premier ministre m'a dit « Mais quel portefeuille ministériel souhaiteriez-vous ?» Et j'ai dit « Ben, moi, je suis chercheur, hein, la recherche et la technologie. » Et c'est vrai qu'il m'a répondu, mais nous avons déjà un ministre de la Recherche et de la Technologie. Je comprends très bien. Bon, attendez 30 minutes, je vous rappelle. Et il m'a rappelé 30 minutes après en me disant, c'est bon pour vous. Vous êtes notre nouveau ministre de la Recherche et des Technologies.
Comme quoi vous avez bien fait d'insister et de rester fidèle à vos convictions. Carole, vous, le moment de prise de risque maximal, est-ce que c'était quand vous êtes allée au Bénin avec cette idée en tête de travailler le karité avec elle et de convaincre les femmes de votre, du village, de votre famille. Parce que si elles ne marchaient pas dans votre projet, c'était fichu. Comment vous avez fait pour les convaincre?
Bah, je n'ai pas eu à les convaincre, mais effectivement, c'était une prise de risque dans le sens où, dans cette région, enfin dans la majorité des zones rurales en Afrique, les femmes ont été reléguées dans un rôle, une position qu'elles n'avaient pas avant l'époque coloniale. Il faut savoir que les sociétés africaines sont des sociétés matriarcales principalement. La colonisation a un peu défait ça, cette organisation. Et ça veut dire que nous, en tant que ma sœur et moi, ou ma mère, enfin, en tant que femmes, nous n'avions pas de légitimité ni de la capacité de venir développer ce type de projet dans la région. Donc la région dont je parle, c'est la Takora, au nord du Bénin. Et donc le risque, effectivement, on prenait un risque en allant voir les femmes et en les incitant à devenir plus indépendantes et plus autonomes, plus libres de leur mari. Je vous donne un exemple simple, hein, mais par exemple, en travaillant avec Caritique, l'unité de production qu'on a construite avec nos propres fonds là-bas, les femmes ne pouvaient plus cuisiner pour leur mari, par exemple. C'est bête, hein, mais on a vu quelques hommes venir sur l'unité de production, aller chercher leurs femmes en disant « va me préparer à manger ». Donc, enfin, des épisodes de ce type, ça paraît bête, mais on ne pense pas à ce genre de choses ici. Donc ça paraît improbable, mais nous, on a dû convaincre les hommes de laisser leurs femmes travailler avec nous et construire ce projet qui est difficile. Travailler sur du bio, déjà, construire une filière biologique, c'est extrêmement compliqué. Construire une filière biologique et équitable, c'est encore plus difficile, mais là, c'est sur l'aval du projet. Donc, à nous de développer, trouver des clients pour vendre un produit à un prix supérieur, c'est faut s'accrocher. Et garantir aux femmes qu'on reviendrait chaque année, parce que les projets de ce type, il y en a plein, des personnes qui viennent et ensuite repartent, disparaissent. Donc, il fallait une garantie économique. Nous, on rémunère les femmes à un niveau trois fois supérieur au prix du marché. Ça, c'est une chose. Mais j'ai compris qu'en fait, le tabou qu'il y a sur le prix du karité, il vient du fait que la majorité des femmes sont rémunérées à 10 fois en deçà du seuil de pauvreté fixé par l'ONU. Donc, ce qu'on faisait, en fait, c'était juste du bon sens, dans le sens où pour que les industriels qui s'approvisionnent en karité continuent à s'approvisionner en karité, il fallait nécessairement qu'ils comprennent qu'il fallait rémunérer les femmes au minimum au niveau du seuil de pauvreté. Nous, on était à 3 fois au-dessus. Et ce sont les femmes qui ont défini ce prix, c'est-à-dire qu'elles savent parfaitement ce qu'il leur faut pour vivre dignement. Ça n'a pas été simple dans la mesure où, la première année, on n'a pas été bien reçus, et que les hommes s'attendaient à ce qu'on échoue. Quand nous sommes revenus, au bout de 5 ans, ils ont compris qu'on était là pour durer. Mais à chaque fois, en fait, ça restait sensible. L'année où j'ai proposé que toutes les filles des femmes soient systématiquement scolarisées, c'était la condition sine qua non pour qu'elles continuent à travailler avec nous. Là, on a compris qu'on quelque chose était produit, puisqu'ils voyaient l'intérêt économique. Donc, pour ne pas perdre cet intérêt économique, le revenu des femmes, ils laissaient leurs filles aller à l'école. Et on a compris qu'on avait vraiment atteint le moment, complètement changé la donne. Moi, j'ai entendu un homme venir nous voir, parce qu'on développait le projet autour de l'apiculture durable, autour des arbres de karité. Un homme qui nous disait « j'aimerais bien être une femme pour pouvoir travailler avec nous ». Un homme qui disait « aujourd'hui, je préfère avoir une fille plutôt qu'un garçon ». C'est un détail, mais ça démontre qu'un tout petit projet comme Carity, comme ça, peut complètement changer la donne. Donc, on est revenu en fait à un mode de fonctionnement un peu plus matriarcal, c'est pas fini, mais on progresse.
Mais avec un véritable impact.
Oui.
Est-ce que vous pouvez partager avec nous un moment difficile que vous avez dû affronter? Parce qu'on a tous et toutes vécu des échecs, vous en avez partagé quelques-uns. Est-ce que vous pouvez en partager un avec nous, Claudie?
Ben oui, volontiers, parce que des échecs, il y en a dans toutes les trajectoires. Hein. C'est pas ça qui doit vous arrêter. Vous faites demi-tour, vous faites un chemin de traverse ou vous vous faites aider pour continuer à avancer. Moi, ça s'est produit en mai 2005, puisque j'étais ministre des Affaires européennennes. Et si vous vous souvenez, mai 2005, les Français ont dit non au référendum sur le traité pour la Constitution européenne.
Ce qui était un choc, hein, on ne s'y attendait pas du tout.
Alors, c'était un choc, bien sûr, on le sentait venir, mais la pédagogie européenne à faire très rapidement pour un référendum, c'est quand même très très compliqué, à l'heure des réseaux sociaux qui apparaissaient avec des argumentaires du non qui étaient très très puissants. beaucoup plus puissant que la pédagogie qu'on pouvait faire en quelques secondes, parce qu'on n'avait jamais droit à des minutes pour le
traiter, c'est sûr.
Et donc voilà, ce non, pour moi, c'est quelque chose qui a été très difficile à vivre. C'était difficile pendant la campagne de se retrouver parfois dans des amphithéâtres hostiles. Donc c'était compliqué. Mais c'est pas pour tout ça que j'ai abandonné l'Europe. Au contraire, je me suis dit, on n'y arrive pas par la voie institutionnelle, par la voie de la pédagogie, par la voie du référendum. Et donc, je suis revenue à l'Agence spatiale européenne pour concrètement travailler sur des projets qui donnent cette autonomie européenne, que ce soit avec Galileo pour le positionnement, que ce soit avec Copernicus pour l'observation de la Terre, que ce soit pour la participation à des missions scientifiques absolument extraordinaires. On est en train de partir vers Mercure, vers Mars, vers la Lune et au-delà. Donc voilà, concrètement revenir à l'Europe, ça a été ma façon de contourner cette déception et cet échec du référendum quand j'étais ministre.
Merci Claudie. Et vous Carole, un moment difficile que vous souhaitez partager? Peut-être le moment où vous avez dû racheter vos actions finalement au groupe dont on a parlé tout à l'heure, non? Vous voulez
parler? Oui, la reprise. Alors, c'est un épisode difficile, non, puisqu'en fait, chaque obstacle débouche
sur une opportunité. On est bien d'accord.
Tout dépend de la façon dont on perçoit l'obstacle. Mais quand j'écoutais Claudie, je trouvais qu'elle aurait fait une excellente entrepreneur, en fait. Parce qu'il y a cette capacité à avoir plusieurs casquettes. Et puis, par contre, je ne suis pas sûre que...
Non, merci, Carole, mais j'essaie d'accompagner un maximum de jeunes pousses, de jeunes talents, justement, parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, dans cette diversité, dans cette façon d'ouvrir l'innovation, d'aller trouver des idées ailleurs, voilà, il faut accompagner, donner sa chance, et j'essaie vraiment de faire en sorte que ça soit possible.
Ouais. Ouais. Et le contraire, non, il ne serait pas... possible par contre. Ça m'a marqué parce que en termes de difficultés, il y en a plein, enfin constamment. Et parfois, je me demande même si on ne cherche pas en fait ces difficultés. Mais c'est normal d'échouer. Je veux dire, pour moi, si on n'échoue pas, on n'apprend pas.
D'avoir des obstacles en fait. Parce que l'échec n'est jamais définitif, c'est un apprentissage.
Oui, mais je pense que dans la culture française, on a du mal à accepter l'échec, alors que sous d'autres cieux, en fait, on considère que l'échec, c'est un diplôme. Tant qu'on n'a pas... Voilà, il faut collectionner ces diplômes pour pouvoir les présenter en disant « j'ai fait ». Si j'ai échoué, c'est que j'ai fait. Et plus j'ai échoué, plus j'ai fait. Et moi, j'ai effectivement, comme j'ai grandi au Bénin, j'ai eu cette culture de la perfection, viser la perfection constamment. Ça mène à faire des... Quand on n'est pas mentalement suffisamment fort, en fait, ça débouche à quelques drames qu'on pourrait éviter si on acceptait davantage l'échec.
Et là, je rejoins Carole, tout en mettant un petit bémol sur viser la perfection. Oui, visons la perfection, mais la perfection, ça ne s'atteint jamais.
C'est ça.
Donc, c'est la perfectibilité qui est quelque chose d'important. Si on attend d'être parfait, on n'y va jamais.
C'est ça.
On ne fait rien. Jamais. C'est vrai.
C'est compliqué de parler d'un moment difficile. Et comme j'ai constamment... j'étais consultante avant. Donc, j'ai cette façon de constamment chercher la solution à toute problématique.
Vous feriez un bon astronaute. Les astronautes sont des trouveurs de solutions.
Merci beaucoup. Actuellement, on vit quelque chose de difficile dans le monde du bio. On a à peu près à moins 30%, mais je pense que c'est pareil dans toute l'économie. Je ne vais pas définir ça comme un échec. C'est une difficulté dans le sens où il faut absolument trouver des solutions qui n'existent nulle part. Ce n'est inscrit dans aucun livre. Aucun professeur ne vous explique comment est-ce que vous en sortez quand l'énergie, le prix de l'énergie explose, quand les frontières se ferment dans un contexte de guerre, etc. De mémoire, je n'ai jamais vu ça nulle part. Alors, c'est une opportunité pour les personnes qui sont en capacité d'imaginer et de créer de nouvelles solutions. Moi, personnellement, j'estime que c'est une opportunité pour le continent africain, parce qu'on a essayé tout sauf les solutions sur le continent africain. Si aujourd'hui, on a été rentable sur l'exercice précédent. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on va clôturer. Donc, je fais appel à toutes les personnes qui ont besoin de se sauver la peau ou les cheveux, commander les produits Carétique, pour qu'on soit encore là, dans les prochains mois, les prochaines années.
Merci Carole, merci Claudie. On va terminer par un portrait chinois. Si vous vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que la Claudie de 20 ans ou la Carole de 20 ans vous dirait?
Je pense qu'elle me dirait tu as bien fait d'oser être toi-même et de tenter l'aventure qui est la tienne. Bravo, mais tu as encore des choses à faire. Continue.
Et vous, Carole?
ose être heureuse.
Ce qui vous ressource, Claudie ?
Mais c'est sans doute de pouvoir discuter avec des tas de gens différents. En premier lieu, ma famille et mes amis. Peut-être parce que j'ai été expatriée longtemps. C'est important pour moi, ce cœur d'amour et de bienveillance.
Et vous, Carole ?
La montagne.
À quoi avez-vous renoncé pour votre vie ?
J'ai renoncé à l'indifférence. En deux sens. L'indifférence, c'est-à-dire que rien n'est important ou vous n'écoutez pas les autres. Et l'indifférence comme antonyme de curiosité. Parce que incuriosité, ça ne se dit pas. Mais voilà, c'est une des choses. Restez curieux, ne soyez jamais indifférent. Continuez à vous étonner, vous émerveiller.
J'espère que je reviendrai là-dessus, mais peut-être que j'ai renoncé à un enfant. Par contre, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on accepte aussi le fait de changer de vie complètement. Parfois, on renonce à certains amis qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Voilà, c'est douloureux, mais c'est des sacrifices à faire.
La discipline de vie qui vous sauve ?
Avoir toujours envie de découvrir des choses nouvelles, tous les matins. C'est ce que j'espère de la journée qui va arriver.
Oui, pareil. Jongler et puis en espérant qu'une balle nous retombe dessus constamment.
De quoi n'avez-vous plus peur ?
J'ai plus peur de l'incertitude. Au contraire, ça me donne envie de pousser la porte et d'aller voir ce qu'il y a derrière le voile.
De la fin du monde.
Sur quoi vous travaillez pour progresser ?
Eh bien, je travaille en ce moment sur des infrastructures permanentes sur la Lune où des expéditions d'astronautes pourraient se rendre, en pensant soutenabilité, en pensant bien commun et en pensant progrès pour l'humanité.
Les mystères de la monnaie.
Votre mantra ?
Évidemment, per aspera ad astra. Au travers des difficultés jusqu'aux étoiles.
C'est trop beau. Merci Claudie Agnuret, merci Carole Tawema, merci à vous qui nous écoutez. Un immense merci à Camille Codor et Marie Jaworski. Merci à Sandrine Chabot, Zaya Cassel et à la Dream Team des Échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous deux citations. La vôtre, Claudie Agnuret, « Il faut avoir l'audace de pousser la porte de ses rêves ». Et celle de Goethe, qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.